À tous, vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Mon nom est Nelson, je suis accompagné de mes deux comparses habituels. J'ai à mes côtés César.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va ce matin?
Bien, bien, et toi?
Excellent, en grande forme, merci beaucoup. Et nul autre que Marc-André Jutras.
We are the champions, bienvenue.
Le heavyweight champion of the world.
Heavyweight.
En grande forme ce matin.
Super Bowl, il s'est dit, on est les champions.
J'ai pas écouté ça. je t'ai demandé c'était qui faisait
qui a joué.
Qui a fait la musique à l'entraque.
Ouais. Ouais, mais on peut parler de ça. I'm sure, c'était excellent. Ouais. Vraiment cool à voir. Côté performance, entertainment, vraiment cool comme... Tu sais, quand on
pense à Usher, hein?
Usher, ouais.
Mais Back from the Grave, moi, je n'entendais pas parler dans mon univers.
Dans ton univers, ouais, c'est pas la radio commerciale, mais il y a une tune que, genre, il y a. Tu sais, j'ai checké les derniers 10 ans, puis ça a passé par les radios EDM, tu sais, genre 2010, 2012, la musique pop électro. Fait qu'il a fait des tunes de même. Fait qu'il a fait ses
hits. Non, mais son gros peak, il était pas. Il est pas là,
son peak, il était début 2000. Ouais, début 2000, 2004 avec Lil Jon. Là. Yeah! Ouais. Puis ça, c'était son plus gros beat. Il a joué dans le Super Bowl. Fait que c'était vraiment. Il a passé à travers ses hits. Puis quand il a joué hier, c'était vraiment une nostalgie. Puis ça fait 20 ans que cette chanson est sortie. Fait que c'était un throwback. Puis tu vois juste le crack, ça sautait. Puis ils avaient un stage. puis tous les danseurs, tout le monde était au moins une quarantaine, puis quand ils sautaient, tu vois, genre, ouais. Là, ça faisait un peu trampoline. Oh boy, il est mieux peut tomber
le stage. Sur la scène temporaire.
Sur le halftime, où il y a 100 millions de personnes qui regardent le halftime.
Un numéro en patin en roulette aussi, hein, j'ai vu passer.
Oui, c'était quelque chose. Ouais. Parce que tu vois tous les danseurs qui viennent en patin... puis tu vois Usher aussi qui fait ses moves, puis chorégraphe, puis holy crap, c'était quelque chose, hein, comme multitalent. Puis
même pratiquer son coup de patin, si je comprends bien.
Ouais, c'est 180 degrés là, puis non, mais quelque chose à voir, puis vraiment le fun. Puis en tout cas, moi j'avais une idée de quoi m'attendre de Usher, parce que je l'ai vu en 2016 par hasard au Centre Bell.
Par hasard.
Il se promenait sur la rue, puis il a dit, je vais rentrer dans le...
Il est tombé dans le Centre Bell.
Ouais. Puis je vais aller voir qui joue, qu'est-ce qui se passe.
L'événement s'appelait Global Citizens.
Excusez-moi.
Puis à la fin, on me dit, bon, ben on vous présente Usher avec The Roots.
Oh.
Fait que c'était 1h45 de Usher avec The Roots comme backup band. Puis c'était quelque chose à voir. Il était capable de... se maintenir, genre donner un show pour 1h30 puis avoir son l'attention au show. J'étais vraiment impressionné. Tu sais, des chansons que je connaissais, il y en a que je connaissais pas, mais c'était vraiment quelque chose à voir comment les musiciens y embarquaient sur ses chants et puis ses danses. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, c'est le halftime du Super Bowl, il y avait quelque chose, puis he delivered.
Santé, salut.
Santé à Usher.
On lève nos nachos et notre bière.
En grande forme.
On est encore en Super Bowl. On est encore le dimanche.
45 ans, puis tabarouette qui bouge, le gars. Là.
Ouais, hein?
Ouais, vraiment impressionnant.
Un danseur et un chanteur aussi.
Respect.
Mais là, la première pièce musicale de notre émission de radio.
Oh, cassé, c'est ça?
C'était pas Usher.
Non, c'était pas Crusher.
Ni Crusher.
Ni Usher. Non, c'était Crustacean. La chanson s'appelle Purple. C'est un remix de Jay Dilla. Une chanson, un remix, disons, que c'est un peu... Tu dois vraiment la chercher. C'est vraiment comment on appelle ça? Des deep cuts, des remixes du catalogue de Jay Dilla. Vraiment le fun parce que c'est un groupe que j'ai jamais entendu parler. Puis c'est le remix qui m'a vraiment pris l'attention. Puis je l'ai joué comme au moins 10 fois. C'est vraiment hypnotisant. Puis Crustacean, c'est un groupe trip-hop qu'ils ont sorti un album en 97-98. Vraiment intéressant à découvrir, mais c'était un des groupes que d'autres mondes faisaient du trip-hop. Fait que c'était pas très populaire. T'avais les top 2-3 Portishead, Massive Attack, Tricky.
Ouais.
Fait qu'il y avait trop de monde.
Obscur,
trop obscur ou répétitif ou rien de nouveau. Mais tandis que c'était vraiment c'est un album intéressant, vraiment différent. Mais j'avais zéro expectation, puis à la fin, c'était pas si peu. Mais ce remix-là, tu pourrais comme le mettre par-dessus l'album, selon moi. Fait que quand même cool à l'écouter dans l'auto Late Night Drive de retour à la job.
Oui, ouais, tout à fait.
La voix, c'est qui? La...
Ah,
Madame Crusty.
Madame Crustaceans?
Crustaceans.
Mais le groupe s'appelle...
Crustacean.
Crustacean.
Crusty
comme
green.
Pizza crust.
Crust.
Crustacean.
Crustacean. Miam.
Des Krusty Punks, ça a fait.
Fromage dans la croûte. Krusty Punks.
Krispy Kreme. Crust. Krusty the Clown.
Tout ça dans la même famille.
La même famille.
Oui.
C'est un band.
Famille musicale.
Une famille musicale.
Alors, cette semaine, à l'émission, Marc-André.
Je bois du café et je vous dis santé.
Santé à tous. Bon matin.
Déjeuner.
Et on a de la bonne musique pour vous.
Toujours.
Et aussi quelques recommandations culturelles.
Oui.
Dont des films, des bandes dessinées.
Oui.
Et c'est tout. Je pense que ça va être assez
pour aujourd'hui.
La comédie, oui, c'est ça.
Ha ha, des blaguettes.
Encore avec des blaguettes.
Avec des blaguettes.
Ben oui.
Hey, ben là, je viens de l'avoir. Je ne sais pas qui l'a écrit. Je ne sais pas c'est quoi ce livre-là, mais je l'ai dans les mains. C'est « The New Tattoo Artist ». C'est « Created by Mariona Cabassa ». Et c'est un livre, naturellement, sur les nouveaux artistes de tattoo. Et c'est fort intéressant parce que le design du graffiti, le design du cartoon, le design des lettrages s'incrustent maintenant sur la peau. Fait que le graffiti, le tattoo et le graffiti, là, il y a beaucoup d'artistes de tattoo qui font du graffiti.
Ouais.
Puis il y a beaucoup d'artistes qui font du tattoo, qui font du graffiti la nuit.
Qui commencent.
C'est ça. Et il y a des affaires que j'aime, il y a des affaires que j'aime moins. Ça va par région. Tu as la France qui est représentée, des tatoueurs que je connaissais pas, des Brésiliens. Des Italiens, des endroits que je pensais même pas qu'il y en avait, comme la Pologne, l'Allemagne, oui, United Kingdom aussi, Germany aussi, le Japon, la Hollande aussi, mais des endroits comme la République tchèque et tout ça, je ne connaissais pas ni les artistes, ni qu'il y avait une scène, on va dire, de graffiti et de tatoueurs. Et les tatous sont assez... t'en as de tous les styles. Là, je te montre Matteo Nangeroni, qui est italien, qui est full tatou. On voit l'artiste et on voit ses dessins. C'est noir et blanc. Fait que t'as des affaires qui sont très abstraites, des lignes. Ça, on voyait moins ça dans le tatou. Et des affaires hyper réalistes qui ressemblent un peu à du Omen Otter qu'on a à Montréal, deux artistes. Fait que t'as tout ce côté-là qui est quand même très cool, des abeilles, des yeux, des insectes que tu te fais mettre sur le chest ou sur le bras, le troisième œil, des poulpes, des pieuvres, t'sais, des dessins hyper réalistes, puis des fois c'est juste des petites lignes abstraites, fait que c'est assez assez capoté.
Le hyper réaliste est hyper réaliste, il faut vraiment insister sur le fait que c'est pratiquement une photo, là, l'illustration.
Ouais.
Donc, je peux imaginer que ça peut être très long à faire sur une peau humaine.
Ouais.
Dans le sens que le détail, il est là. Hein?
Ça fait doit saigner.
Ça doit saigner, puis pas sur ketchup. Un moyen temps. Ouais,
c'est ça. Là,
c'est pas cousu. Ouais.
Ouais. Mais regarde ça, t'as du pointillisme en tatou.
Ouais, ouais, ouais.
Mais c'est pas là, des points de 2000 mètres. C'est du 0.001 millimètre.
C'est
du... pensez à vos petits crayons, tu sais, que quand tu fais du dessin, là, 0.5. C'est ça. C'est capoté. Fait, pour moi, ça m'intéresse, là, le côté graphiste puis tout ça. Fait que c'est un livre super intéressant. Il y a des affaires que je me ferais pas sa peau. Je comprends pas c'est quoi la signification. T'as des gens qui font des espèces de tapisseries puis des assiettes. Des petits animaux avec des petites fleurs, puis ils se le font faire en tatou. Mm-hmm. Fait que c'est chacun fait ce qu'il veut avec son corps et sa peau. Mais t'en as pour tous les styles, du hyper réaliste à du hyper naïf, à du hyper pas beau, à du hyper beau.
Il y a ça de l'abstrait aussi dans tout ça.
Ah oui, il y a tout. Mais principalement, c'est noir et blanc. Pas beaucoup de couleurs. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que tu vois l'artiste tatou. Admettons, Amaré, que je connaissais pas de la France. Et là, tu vois son atelier et tu vois qu'elle tripe sur les Posca, qui est une sorte de paint marker, et les masques africains.
OK.
C'est capoté.
Tu vois inspirations, leurs inspirations.
T'en vois un autre qui vient de la Finlande qui s'appelle Amanda Chanfrou. C'est hallucinant ce qu'elle fait. Et ta voix dessinée sur une feuille, un dessin là, qui doit avoir au moins... J'exagère pas, là, 70 heures de dessin. Elle
n'a
pas fini. Là. C'est une immense feuille, puis elle dessine en noir et blanc, puis elle est à côté sur sa table de dessin, et une superbe photo de l'artiste en train de faire du dessin hyper réaliste, là, capoté, des visages, là, comme... Fait que ça s'appelle The New Artist... New Tattoo Artist, Illustrator and Designer Meet Tattoo.
Ah, super intéressant. Donc, je présume que c'est un livre plutôt récent, si on parle des nouveaux artistes tatoueurs.
Oui.
Donc, c'est les artistes tatoueurs contemporains de 2023. Très intéressant.
Très intéressant.
Moi, j'ai pas de tatou, mais c'est quand même beau.
Ouais, non, c'est ça. Moi non plus, je n'en ai pas.
Non.
Mais comme toi, Marc-André, il y a certains tatous qu'on feuillette comme ça, là, qu'on a l'impression que c'est... on comprend pas trop pourquoi quelqu'un aurait fait ça sur sa peau, mais bon, c'est toujours des choix de vie personnelle.
Personnel, très personnel.
Ah oui, exactement.
Très personnel. Ils ont
sûrement une signification quelconque pour ces gens-là. Et,
mais qu'est-ce que tu préfères, toi? On parle pour parler. Là.
On jase pour parler.
Mais si qu'est-ce que tu préfères? Si t'en dis, tu sais quoi? On va te faire un tatou.
Si on me donnait un tatou, puis on me donnait... Sincèrement, j'ai aucune idée. J'ai pas longtemps eu... Je pense que comme beaucoup de jeunes un moment dans ma vie, j'ai voulu avoir des tatous quand j'avais peut-être 16-17 ans. Okay. Mais ça ne s'est jamais concrétisé. Mais depuis ce temps-là, je suis jamais resté là-dessus, honnêtement. J'ai jamais eu vraiment d'envie, de souhait là, caché d'avoir un tatou sur moi.
Mais c'était quoi cette époque-là à 16-17 ans?
Je pense que je voulais peut-être des symboles un peu comme des hiéroglyphes Maya. À un moment donné, j'avais regardé ça. Mais tu sais, c'était vraiment pas... J'ai zéro magasiné à l'époque. Là. Fait que c'était pas très...
pas magasiné ton flash de tatou.
Non, vraiment pas.
Au moins, c'était pas un barbed wire.
Non, c'est ça. Ben, à cette époque-là, ben, tu vois, c'était la même Pamela époque. Hein.
Ouais, c'est 80...
Les filles se faisaient beaucoup tatouer des trucs comme ça dans le dos.
Ça,
hein,
c'est
dans le bas du dos.
Ouais, ouais.
Au tribal.
Ouais, exactement. Puis les gars... exactement, le tribal barbelé. C'était une époque, hein, c'était un peu mal vieilli.
Ça a mal vieilli.
Malheureusement, c'est ça qui m'a toujours fait peur.
Si la corde barbelée est aussi raide sur le bicep.
Ouais,
c'est,
non, c'est ça.
Ça n'a pas, elle s'est pas c'est, affaisée aujourd'hui.
C'est clair. Ça ne doit pas aller aussi avec le temps. Même c'est beau, même si dans le livre qu'on parlait, là, New Tattoo Artist.
Les photos, c'est tout récent.
C'est super beau, là, mais clairement, c'est des tattoos qui, après 5, 10 ans, 20 ans, doivent se fade out.
Ouais.
Ouais, il faut que ce soit très moderniste.
Et toi, ben, César, ouais. Ça serait quoi?
Mais honnêtement, même chose que Nelson, j'ai toujours apprécié les tattoos, surtout quand tout le monde y a un genre de... On dirait que le choix de tattoo définit un peu leur personnalité, fait que quand tu vois des barbed wires, ben on se pose pas trop de questions, mais no offense, mais tu sais, tu vois vraiment, ok, cette personne-là aime ce style-là, il doit être un peu artistique ou tu sais, pense plus à le côté cerveau de la gauche, mais moi honnêtement, il y a rien qui je me dis, ah, ça va être cool sur moi, il y a rien qui est vraiment sorti. Par contre, je vois de plus en plus les jeunes, ils se mettent des phrases ou des mots.
Ouais.
Ça peut être quétaine ou ça peut être quand même très spécifique à des lettres de chansons. Fait que, tu sais, moi, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est les lettres de chansons que ça m'a...
OK, c'est cool.
Ça, comme, ça m'a comme... OK. Puis, j'ai de temps en temps, dépendamment le mois, je vais écouter du Killing Joke pendant un mois. Puis, j'ai une chanson favorite que j'aime juste... la composition telle quelle, puis c'est très tribalesque, c'est le The Death and Resurrection Show, puis une phrase qui dit « Burn brightly », puis il répète, mais le chant, il fait rappeler, comme on dit, qu'il danse alentour d'un feu, puis là, toutes les drums de Dave Grohl qui embarquent là-dessus, tu sais, la chanson est vraiment épique, là. Fait, il dit souvent « Burn brightly, burn white heat », puis... juste comment il l'a dit, puis la track qui embarque dessus, le terme « burn brightly », ça a vraiment résonné, puis je me dis, ah, si je le mets sur le bras, juste ça. C'est deux mots, puis ça... C'est spécifique. T'as le mot « brûler », mais « brightly », c'est comme...
Okay, ouais.
Pour moi, ça signifie un peu comme... Si je l'avais sur le tatou imaginaire, là. C'est comme... Tu laisses ta marque, tu laisses... ta présence ou ta juste toi, tu laisses une marque à... Ça peut être, tu sais, quand tu croises du monde ou tu marques une personne, bien cette personne que qu'on respecte ou qu'on s'en rappelle, c'est une personne qui nous a marqué. Mais moi, je vois qu'un moment qui a vraiment brûlé, genre, il t'a vraiment...
Il t'a marqué.
Il a marqué. Ouais. Fait que c'est comme...
Au fer rouge, mais de façon positive, ouais.
Fait que c'est comme dire, ah, cette personne a beaucoup de flamme, il y a beaucoup de passion, whatever. Fait que ça a résonné avec moi, mais... C'est une idée dramatique,
mais... C'est super cool. Puis toi, t'adores la musique, puis t'es un musicien. Fait que ça fait du sens.
Ça fait du sens.
C'est ça que j'essaie d'expliquer à des gens, dont ma fille, qui pense depuis plusieurs années se faire faire un tatou. Et j'ai dit, faut que ton tatou ait du sens.
Ouais, c'est ça.
Mais je veux pas qu'elle l'aille là.
Mais il y a un exercice. Ouais. Je me suis écrit Burn Brightly sur moi avec un marqueur permanent. Puis après 30 minutes, j'ai dit, tu sais quoi, c'est une très mauvaise idée.
Un exercice.
Fait que je dis, ah non.
Ma fille a peur des araignées et elle veut se faire une araignée. Fait que je vais y en dessiner une.
Ben
je
suis
un pin noir. Puis je vais voir combien de temps
quelqu'un va te
toffer sans le laver.
Faut que tu mettes en... Tu sais, tu le fais la nuit pendant qu'elle dort.
Ah ouais.
Puis là, c'est ça, il faut que ça la prenne par surprise.
Ou tu mets une arête. Tu fais permanent sur la face.
Là, dors, c'est ça, tu barbouilles ton nouveau Sharpie noir. Le lendemain, il est écrit plein de grossièreté. Ça, c'est de toute beauté.
Ouais, bonne journée à l'école. Journée à l'école, là.
Ouais, aujourd'hui, c'est la journée que tu n'as pas le droit de te regarder dans le miroir. Faut que tu y ailles tel quel.
Ouais.
Ouf. Bonne chance.
Ils vont t'appeler en parlant à la secrétaire de son école.
Hey, moi, ça me fait, je pensais pas qu'on ferait une table ronde, les amis du tatou, mais pourquoi pas. Hey, moi, il y a deux idées qui me viennent. C'est que deux artistes que je respecte énormément, un plus connu, un moins connu, Zylon, qui est décédé, s'était fait, tu sais, ces espèces de silhouettes, ces visages qu'il faisait, qui sont, tu sais, son iconographie est très reconnaissable entre mille. Il s'en avait fait un sur le bras.
Okay.
Ça, je trouvais ça cool. Je trouvais pas ça comme prétentieux ou tout, parce que c'est ton dessin, c'est comme, c'est lui. Ça,
c'est sa signature à lui.
C'est sa marque, ben c'est lui. Ouais. Fait que tu peux pas... Quelqu'un d'autre aurait un Zylon, c'est cool aussi, c'est quelqu'un qui aime cet artiste-là. Mais Zylon, avoir un Zylon, c'est normal.
C'est, ouais.
Christian Dubé, qui était le premier chanteur des Jungle Manor, qui est un groupe dans lequel j'ai participé, jadis Naga, faisait beaucoup de dessins, il fait de la peinture, c'est un artiste en art visuel. Je le salue d'ailleurs. Et lui, c'était la même chose. À un moment donné, il s'est dit, tant qu'à me faire des tatous, je vais faire... Mais il s'est fait ses propres flashs. Mm. Il est allé les faire parce que c'est assez impossible, à part si tu le fais sur la cuisse. Mais si tu le fais sur le bras, faut que tu sois tough.
Un peu compliqué.
Fait que c'est ça qui s'est fait. Puis ça, je trouve ça intelligent. Je trouve ça cool. Que, tu sais, c'est comme... Il a créé son tatou.
Ouais.
Il est allé se le faire par un artiste tatoueur.
Mm-hmm.
C'est...
Mais c'est pas tout le monde qui est bon à dessin.
Non, je sais. Mais t'es quand...
Qualifié.
Un bonhomme allumette, puis il se dit « Hey, peux-tu me faire ça, le bonhomme allumette sur mon... » Non, mais c'est cool. Moi, j'ai été très chanceux, vite, c'est que un ami m'a dit « Hey, tu sais, ton dessin que tu as sur un de tes t-shirts, puis tout ça, je me suis fait des t-shirts, c'est un crâne avec des headphones, ça ressemble à Herbalizer, tout ça, très... mais Dia de los Muertos, ça a été vu, il l'a à pleine sauce, l'espèce de crâne avec des écouteurs. » Et c'est un gars qui aime la musique. Moi, j'aime la musique. C'est pour ça que j'avais fait ça à l'époque. Puis, il m'a dit, est-ce que tu me permets d'utiliser ton logo pour faire un tatou? Puis, je connais une tatoueuse à Sherbrooke, puis tout. Je lui ai dit, pourquoi pas? Wow. Il l'a fait, il m'a envoyé une photo, puis moi, je l'ai posté sur mon réseau social à ce moment-là, parce que j'avais comme une fierté. Moi, j'en ai même pas un MAG sur moi, mais lui, il y en a un. J'ai trouvé ça comme... Aïe, ok, ça, j'avoue, c'est... Puis là, j'ai fait un dessin dernièrement que j'ai posté. Puis là, il disait, hey, ça ferait un beau... Puis là, j'avais marqué comme question, moi, je dessine à la mine, puis après ça, je l'encre. Puis j'avais écrit, est-ce que je mets de la couleur ou je laisse en noir et blanc? Un des premiers qui m'a écrit, il m'a dit, ça ferait un beau tatou, laisse-le en noir et blanc.
OK.
Fait que là, je ne sais pas si c'est un autre de ses projets. Mais je trouve ça, je trouve ça spécial.
Ben oui.
Je trouve ça spécial.
Que quelqu'un ait eu le courage de se faire tatouer ce dessin-là, que toi, tu as eu un flash, comme tu dis, une fois, puis c'est resté. Mais là, c'est sur ta peau pour la vie.
Exactement.
C'est toujours ça qui m'a personnellement fait peur, qui j'ai toujours... J'ai jamais le courage d'aller jusqu'à là. Donc, puis je suis pas sûr que je vais l'avoir bientôt non plus.
Sais-tu c'était quoi, moi, je voulais me faire faire?
Non.
Je suis content de pas l'avoir fait faire.
Ouais.
C'est quand que j'ai fini mon bac à une certaine université qui n'est pas McGill, sur lesquelles vous entendez CQUT.
Concordia.
J'étais en anthropologie. J'étais en anthropologie. Puis après mon bac, j'étais allé en Amérique du Sud et j'ai fait un peu la trail en Bolivie du Che Guevara, qui est argentin, mais qui s'est promené partout. Puis c'était le 30e anniversaire de sa mort à ce moment-là. Puis j'ai fait un peu cette trail-là. C'est comme l'Inca Trail, mais on va dire le Che Guevara Trail. Je me suis ramassé en Bolivie. Puis c'était comme un pèlerinage. C'était comme... pour d'autres personnes, c'est d'autres choses ailleurs. Puis, j'avais pensé l'espèce de silhouette, l'icône, l'image du Che qu'on a tous.
Ah
oui,
OK, wow.
Un peu comme le chandail de Rage Against the Machine qu'il avait déjà fait dans les années 90.
Mm-hmm.
Puis je suis content de pas l'avoir fait.
Oui.
Ah, j'ai pas les biceps et les bras assez gros. Ah. Fait que le Che, il aurait été petit. Il n'aurait pas été imposant. Mais après ça, je l'ai vu partout. Comme une marque de Coca-Cola, il était surutilisé, dont Rage Against the Machine que j'aime. Mais Là, après le T-shirt de Rage Against the Machine, on dirait qu'on le voyait partout.
Ben ouais.
Puis là, j'étais comme content. Hey, j'ai bien fait. Mm. Sauf qu'à l'époque, j'avais acheté une patch, j'avais acheté un poster, puis c'est assez.
Ouais.
Pas besoin d'avoir un tatou.
Exact.
Fin de la parenthèse.
Ben ouais, t'as été sage à cette époque-là, à ton
âge. Maradona, il a famously, il avait son tatou de Che Guevara en arrière de son cave.
Ah, qui ça?
Maradona.
Okay. Ah oui, oui, oui.
Maradona, il y avait la face de Che Guevara
sur son mollet. Argentin, ouais. Puis,
c'est ça.
Mais Maradona, il était spécial là, dans ses political beliefs. Mais
ouais. No comment. Rock and roll, ouais, ça, c'est une grosse parenthèse.
Hein, mais... ben oui.
Écoutez le film d'Emir Kusturica sur Maradona.
Et ses tatous.
Et ses tatous.
Admirer ses tatous.
Hey, en parlant de tatous, le temps a fait. Hey, ça se peut-tu? On a une bonne émission pour vous autres. Après 26 minutes, je vais vous dire qu'on a une bonne émission. Je vais vous parler d'un film tout de suite avant la pause. Un film québécois. Très content de l'avoir vu. Un film écrit et réalisé par Monia Chokri. Et ça s'appelle Simple comme Sylvain. En anglais, ça serait « The Nature of Love ». Et ça, c'est un excellent film d'auteur, d'autrice, qui se passe dans les années actuelles, mais il y a un traitement. J'ai regardé la bande du film, les crédits jusqu'à la fin, pour voir que ça avait été filmé en Kodak. Fait qu'il y a un grain...
En pellicule?
En pellicule.
C'est vrai?
Ben, il est marqué Kodak. Kodak fait-tu du numérique? Je ne sais pas, mais
peut-être.
Il y a un traitement. Peut-être, c'est vrai. Mais il y a un traitement cinématographique qu'on dirait que c'est du grain. On dirait que c'est un film des années 70.
Mm-hmm.
Tu sais, des couleurs, des fois, les oranges, les sépias sont comme. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu as ce feeling-là.
Un peu rétro-vintage.
Oui, rétro-vintage, un peu avec la musique qui vient appuyer.
Okay.
Puis tu as des effets que j'ai pas vus dernièrement, pas peut-être dans des films d'horreur, des espèces de close-up des fois. Tu sais, avec la caméra, faire un zoom. Non, pas un close-up, un zoom, pardon.
Un zoom.
Mais de lentille de caméra dans le film.
Qu'on voit. Effectivement, moi, j'ai juste en tête des films des années 70.
D'horreur,
j'ai The Shining en tête, là.
Ouais,
mais il y a sûrement plein d'autres films que ça s'est passé.
Il y a cette ambiance-là. Fait en gros, l'histoire, c'est que le personnage est un personnage de Sophia qui a 40
Woody
ans.
Woody Allen faisait beaucoup de zoom.
Ah oui?
Okay. Oui, dans ses films dans cette époque-là.
Okay.
Ouais.
Fait que,
je t'ai interrompu,
continue. Non, mais c'est pas grave. Woody Allen. Fait que c'est ça. Ben, c'est Sophia, elle a 40 ans, puis elle souffre en permanence de migraines. Elle est professeure de philosophie à l'université du troisième âge. Je ne savais pas qu'il y avait des universités pour le troisième âge, mais elle est professeure et elle vit en couple depuis 10 ans avec Xavier, qui est un professeur en sciences politiques. Et moi, je trouve que c'est comme un couple, mais au début, je me demandais, j'ai dit que c'est des colocs. Ils ont leur chambre séparée. Ils se disent bonsoir, bonne nuit, à peine la bise.
Ils
n'ont plus d'intimité. Chaque couple a le droit de mieux dormir le soir. Ça, je vous le conseille. Vous prenez un lit, le lit de visite, et vous dormez tellement bien. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait il y a ce couple-là, et là, elle rencontre un Sylvain qui est simple, qui va aller faire des rénovations sur son chalet à ce couple-là.
Okay.
Il vient chambarder la vie du couple.
Et donc,
remettre en question les sentiments que cette jeune Sophia de 40 ans a pour Xavier. Et Sylvain, c'est un gars terre à terre. C'est pas un intellectuel comme son chum, c'est un gars, c'est un faiseur. Là. C'est un bricoleur, c'est un.
Un jobber,
un menuisier, tout ça.
Un bon vivant aussi,
un bon
peut-être,
vivant aussi,
contrairement
à l'autre qui est plus dans l'intimité.
Donc là, elle se lit, elle a une relation avec Sylvain.
Oui.
Parce que déjà, juste la pochette, sur l'affiche du film, on voit Sylvain embrasser, j'oublie le nom.
Sophia,
le personnage.
Ouais.
Donc, c'est ça.
Fait que c'est une passion brûlante. Je peux pas en dire plus, sinon je brûle. Mais c'est fort sympathique. Il y a de la très bonne musique. Les semaines passées, on parlait d'autres films. J'oublie souvent de dire, à part Indiana Jones, je savais que c'était
John Williams,
qui, tu sais, lui, c'est à la chaîne, c'est comme une chaîne de production. Là, t'as des. Je sais pas qui fait la musique, mais t'as beaucoup de pièces de. de la musique québécoise, des, ben, pas juste québécoise, mais des années 70-80. Et tu as Robert Charlebois, une vieille bonne toune. Et c'est à point. C'est parfait. C'est parfait. Okay. Puis Monia Chokri, elle joue un second rôle.
Ah oui, OK.
Dans son film, à elle. Fait que c'est très sympathique quand on sait c'est qui. Tiens, je te passe le
moitié. Excellent. Simple comme Sylvain, film de Monia Chokri, à voir dans un club vidéo près de chez vous. C'est l'heure de la pause. Je t'arrête tout de suite, Marc-André.
Oui, arrête.
À tous à la maison, restez sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On se reparle dans quelques secondes.
Tantôt.
Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos. Por definitivo.
Conocidos mundialmente como los reyes de la bachata.
Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada.
Se juntarán en el último recorrido para cantar todos sus éxitos.
Tú eres la mami de mi vida. Mi corazoncito está de luto por tu amor.
La gira Cerrando Ciclo. Lenny, Mikey, Henry y Romeo.
Primero me dijo que es un pecado.
Si nunca has visto Aventura, esta será la última gira del grupo, donde los verás juntos. Junio 8, Montreal, Canadá. Bell Center. Preventa este jueves 29 de febrero en Ticketmaster.com con el código Aventura.
They man's mama. Quick, fast, trigger fingers on the llama. Revenge in their eyes, Hennessy in the ganja. Words to the wise, with villain state of minds. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind. Grinded, hitting Brazilian dimes from behind.
Grinded, hitting Brazilian dimes from behind.
Whenever, if ever, I roll up, it's sewn up. Any ghetto would tell you Nas help grow what's up. My face once graced promotional Sony trucks. 100 million in billing, I helped blow them up. Gave my man my right, I could've went left. So like my girl Foxy, the kid went deaf. So people, who's the top 10? Is it MC Shan? Is it MC Ren? If hip-hop should die before I wake, I put an extended clip and body them all day. Roll at every station, wreck the DJ. Roll at every station, wreck the DJ. If hip-hop should die before I wake, I load an extended clip and body them all day. Roll at every station, wreck the DJ. Roll at every station, wreck the DJ.
DJ, DJ, DJ. I just died this morning.
The bigger the cap, the bigger the pillin'. Come through something ill, missing the ceiling. What influenced my rap? Stick ups and killings, kidnappings, project billings, drug dealings. Criticize that, why is that? Cause Nas rap is compared to legitimized crap. Cause we love to talk on nasty chickens. Most intellectuals will only half listen. So you can't blame jazz musicians or David Stern with his NBA fashion issues. Oh, I think they like me and my white tee. You can't ice me, we here for life, B. On my second marriage, hip hop's my first wifey. And for that, we're not taking it lightly. If hip-hop should die, we die together. Bodies in the morgue lie together, all together now.
If hip-hop should die before I wake, I put an extended clip and body them all day. Roll at every station, wreck the DJ. Roll at every station, wreck the DJ. If hip-hop should die before I wake, I load an extended clip and body them all day. Roll at every station, wreck the DJ. Roll at every station, wreck the DJ.
Everybody.
everybody sound the same. Commercialize the game, reminiscing when it wasn't all business. It forgot where it started. So we all gather here for the dearly departed. Hip hopper since the toddler. One homeboy became a man, then a mobster. If it dies, let me get my last swig of vodka. R.I.P. We donate your lungs to a roster. Went from turntables to MP3s. From V Street to commercials on Mickey D's. From gold cables to Jacobs. From plain facials to Botox and facelifts. I'm looking over my shoulder. It's about 80 people from my hood that showed up. And they came to show love. Sold out concert and the doors are closed shut.
Vous êtes de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce du grand rappeur Nas.
Oui, c'était Hip Hop Is Dead avec Will.i.am de Black Eyed Peas de l'album Hip Hop Is Dead, sorti en 2006, son premier album sous le label de Def Jam. Album très très cool, vraiment vraiment, on dirait que c'était un nouveau chapitre pour Nas dans le temps. Surtout pour déclarer que Hip Hop Is Dead en 2006, ça crée beaucoup de discussions
animées.
Ouais, ouais. Beaucoup de journalistes ont embarqué là-dessus, surtout les rappers comme les prédécesseurs de Nas, les old school, que c'était très par rapport les lyrics. Puis ça a un peu touché un air les rappers dans le temps, que c'était très commercial, très radio, que genre...
L'essence primaire du rap.
C'était pour dire comme, tu sais quoi, il va y avoir deux types de rap. Il y a le rap commercial. Comme... Rap commercial, ça va à la radio, que c'est le nouveau pop.
Ouais.
Et il va y avoir le rap qu'on connaît, qu'il va toujours avoir du monde qui va vouloir écrire, être... très habiles à leur façon de rapper, des affaires de même. Fait que...
Les Français, ils avaient qualifié ça, il y avait du rap, ils appelaient ça, les IM, ils critiquaient souvent ça, la variété. La variété.
Okay.
C'était la variété, c'est de la pop. Là, c'est pour,
mais c'est ça, 2004-2006, le rap français en France était rendu très commercial, puis la France qui ont pris beaucoup l'influence de qu'est-ce qui était commercial aux États-Unis, mais à ce point-là, 2006-2007, le hip-hop commençait à être moins régional. Le son qui vient de New York, le son qui vient du sud, de la Californie, puis avec l'Internet, ça commençait tout à être global.
Ouais.
Fait que tu pouvais venir de Chicago, son. Nouvelle-Orléans, tu pouvais venir de Miami, à un moment donné, c'était juste... C'était la même affaire. Puis, tu sais, on peut parler des artistes comme A$AP Rocky, qui est sorti de... Je sais pas où, en Bronx, on va dire. Quelque part à New York, mais une grosse influence sur le son du sud. Comme les groupes UGK, ceux qui ont du gros bass, puis c'était pas New York, c'était pas un son new-yorkais, fait que c'était vraiment la fin d'un hip-hop, de hip-hop régional, on va dire.
Mais là, je veux t'apprendre quelque chose, en 2024, hip-hop is not dead.
Non, définitivement pas, puis Nas l'a admis que c'était juste pour, à le temps,
mais c'est ça, c'est ça.
Il y avait une frustration, c'était vraiment une frustration dans la discussion, ouais. Qu'est-ce qui était commercial, tu sais, 2006, Kanye West était déjà populaire, c'était déjà son deuxième album aussi sous Rockefeller Def Jam. Fait qu'il y a beaucoup de styles de rap. C'était vraiment le nouveau chapitre de que où est-ce qu'on s'en va avec ça? Parce que tout le monde a grandi que le hip-hop, ça a toujours été, ça vient de New York ou ça vient de LA, ça vient de quelque part. Fait que chacun de ces villes-là, il y a un son en particulier. Fait que c'était un nouveau chapitre dans l'histoire du hip-hop. Et si on regarde maintenant, c'est tellement global que tu peux venir de Montréal puis tu sonnes comme de Californie.
Mm-hmm. Ouais.
Tu peux plus dire que tu viens de Montréal, c'est le son de Montréal, ça n'existe plus.
Ouais.
Ça, c'est vraiment l'artiste. C'est comme un DJ Premier. Avant, on disait que c'était le son de New York, mais non, c'est plus le son de New York, c'est le son de DJ Premier. Même si symboliquement, on sait que dans l'histoire, ça vient de New York.
New York represent, Montréal represent. Nas, Hip Hop Is Dead, très bon album. Le sampling qu'on a entendu, un super gros groupe, Iron Butterfly, In A Gada De Vida, une pièce qui dure tout un album de vinyle,
ouais.
Que j'ai déjà fait jouer au complet, c'est de toute beauté. Slayer l'avait repris, In A Gada De Vida. On dirait qu'on est à la messe du rock, et là on était à la messe du hip-hop. Les deux, le rock, le rap, se rejoignent. Et là on était à la messe du lundi, on vous amène la bonne nouvelle. Et je vous amène la bonne nouvelle. Je suis dans des... avec Simple comme Sylvain, le film. Nelson, tu avais découvert, c'était qui avait fait la bande...
La musique BOF. Originale du film Simple comme Sylvain de Monia Chokri a été faite par Émile Sornin.
Moi, je ne le connaissais pas, mais c'est pour l'ambiance, c'est très cool comme film. Et les images sont très belles. Et là, je vais rester dans les histoires de l'amour. On est au février, il paraît que c'est un mois d'amour.
C'est vrai.
D'amitié. Mais j'irai pas dans le sentimentalisme. Une bande dessinée de Luc Bossé et d'Alexandre Simard parue sous Parpar, qui est une maison d'édition québécoise montréalaise qui est à connaître si vous ne la connaissez pas. Et c'est Yves, le roi de la cruise.
Hop là,
hey! Avec un titre de même, on se croirait dans Cruising Bar.
Ouais, ses parents l'ont vraiment aimé pour l'appeler Yves en 2024. Ouais.
Écoutez bien ça. Yves pourrait... faites attention! Yves pourrait être votre collègue de travail. Il est plutôt discret sur l'heure du lunch, mais il est gentil et serviable. Yves pourrait être votre voisin. Il sort ses vidanges, les bonjours, et il vous salue poliment. Mais il en reste là. Yves pourrait aussi être votre chum, mais il faudrait d'abord qu'il vous crouse. Et ça, c'est pas gagné d'avance.
OK.
Et c'est cette bande dessinée-là que j'ai dans les mains. Non, je sais, ça a l'air un petit peu cucu comme intro, mais c'est fort sympathique. C'est en noir et blanc, c'est des cases. C'est très cartoon, c'est très ligne simple, pas beaucoup de détails, très... Comment je pourrais décrire ça comme bande dessinée? Tu sais, il y a pas de la grosse action, là. Il n'y a pas des extraterrestres qui arrivent.
C'est beaucoup de dialogue.
Il y a du dialogue, il y a des images. Et là, c'est la vie quotidienne au bureau, les gens qu'on rencontre, hommes, femmes, et les rapports de Yves avec les personnes du côté féminin. Et c'est fort sympathique. Et il y a son meilleur ami qui donne des conseils, parce que lui, c'est comme... il se croit être un Don Juan, puis il pense qu'il comprend la psychologie, la mentalité des femmes auxquelles il crouse. Fait que c'est très, très sympathique. Ça se lit très rapidement. Et Luc Bossé, j'ai déjà lu de ses bandes dessinées. C'est un designer graphique de profession. Mais en 2008, il décide de tout lâcher et se consacrer à la bande dessinée. Et je te dirais que c'est un très bon choix qu'il a fait, parce que tout ce que je suis en train de découvrir de Luc Bossé et son collègue Alain Simard, ils ne travaillent pas tout le temps ensemble, c'est fort sympathique. Il y a un petit côté Tintin à son personnage.
Ouais, c'est ça. Hein?
Il y a une couette avec quatre
Seven
bandes
up.
De cheveux. Hein?
Le bonhomme 7-Up.
Ah oui, Fido Dido.
Ah, Fido,
tu t'en
rappelles
du nom? Ben oui, Fido Dido. Ben oui, j'avais une figurine de...
Ah oui, que tu pouvais... ouais. Avec du métal dedans, tu peux bouger.
C'était un bonhomme noir et blanc, là, ouais, en contour noir. Puis il y avait des cheveux droits. Puis c'était comme quatre petites lignes. Là, un peu comme Yves, le roi de la cruse. Ouais. Un toupette qui me fait penser à deux personnages. Tintin et Paul de la série de Michel Rabagliati.
Ben oui. Puis c'est en noir et blanc à l'intérieur, mais sur la couverture, il y a un peu de couleur. Et il y a une couronne, parce que c'est le roi de la cruse, je vous le passe. Vous allez lire à une demi-heure pendant que je parle. Vous allez avoir le temps de lire. Je parlerai pas trop fort. Fait que ça, c'était une de mes suggestions. Et la semaine passée, j'en avais un autre. Je l'apprends à l'instant. Merci César d'être mon troisième bras. Magic Pen de Dylan O'Rourke. Et là, ça, c'est une mise en abîme. Fait que c'est Dylan O'Rourke qui écrit, qui scénarise et qui fait le dessin. C'est un auteur américain qui a été traduit en français. Il raconte avec malice l'histoire de la bande dessinée et les coulisses de l'industrie dans sa bande dessinée X-Ville. Fait que ça avait eu beaucoup de popularité dans le milieu du divertissement, parce que les auteurs, un peu comme dans le rap Nas, il y a comme critiquer un peu qu'est-ce qui se passe dans le milieu. Et là, ça, les autres auteurs, ça les blesse ou ça les confronte à des réalités, parce qu'ils se regardent le nombril, ils se dessinent un peu Me, Myself and I, puis leur univers, puis tout ça. Fait que là, il écrit un nouveau récit qui est en forme de mise en abîme, comme je disais, parce qu'il rend hommage aux forces de l'imaginaire, tout en questionnant les liens qui unissent le créateur et sa création.
Okay.
puis dans l'univers parfois névrotique de la bande dessinée. Fait que là, puis lui, il a le saut approuvé de Craig Thompson, qui a écrit une brique qui s'appelle Blanket, puis de Scott McCloud, qui a écrit une des premières bandes dessinées sur la bande dessinée, sur les codes. C'est quoi un phylactère? C'est une bulle. C'est où est-ce que tu mets le dialogue? C'est quoi trois cases? Début, milieu, fin. C'est toutes des affaires comme ça. Fait que lui, il joue un peu là-dedans. C'est un dessinateur qui est en panne d'inspiration, qui parle à sa blonde puis qui dit hey, c'est nul. Il fait comme une super héroïne puis il est comme pris dans cette espèce de c'est une job alimentaire, si on peut dire.
Ouais, ouais, ouais.
Mais en bande dessinée, c'était pas ça son rêve en faisant de la bande dessinée. Fait que c'est en couleur. C'est un dessin simple. Il y a beaucoup de phylactères, il y a beaucoup de dialogues. Et tu as un va-et-vient entre le réel. Il rencontre des autres autrices, d'autres amateurs de bande dessinée, des libraires. Et il tombe dans sa propre bande dessinée qu'il a créée. Okay. Il rentre dans
l'univers.
Hein?
Le quatrième mur, comme on dit.
Le quatrième mur, exactement. Fait qu'il rentre là-dedans. Et là, il est pris avec des décisions qu'il a prises. Puis là, il est comme pogné là. Puis il y a une héroïne aussi qui le suit, qui s'appelle Mickey, qui a un pouvoir qui s'appelle Mickey Boots Go. Fait qu'elle a comme des réacteurs fusées après ses bottes.
C'est un peu comme Astro, le petit robot.
Astro, le petit robot.
Hey, Astro.
Fait que, puis t'as des chapitres, la BD sacrée, tout ça. Fait qu'il y a une critique sur la création, sur la bande dessinée. Fait que c'est quand même une grosse brique. C'est une monographie que je dirais que c'est un... on va dire un recueil de texte. C'est pas un recueil de texte. C'est un recueil de plusieurs chapitres qui fait une bande dessinée complète. C'est un one-shot.
OK.
Un one-shot. Cool, cool. Ouais, ça se lit super bien.
Donc, c'était Magic Pen.
Oui, le crayon magique.
J'ai oublié le nom de l'auteur.
Dylan Horrocks.
Puis là, en termes de temps...
Il nous reste un gros 13 minutes.
Bon, ben, on va y aller avec une petite pièce musicale, tout simplement. De Montréal, The Brains. No pain, no brain.
On est de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce musicale d'un excellent groupe montréalais, The Brains.
Les cerveaux.
Les cerveaux, avec l'album, tiré de l'album No Pain, No Brain. C'était la pièce, Marc-André, c'était laquelle?
Train Keep Rolling On.
Donc, The Brains.
Pun sur Train Keep Rolling. Mes chansons des années 60.
Ah ouais?
Ouais, c'est comme un pun d'une vieille tune.
Ah, c'est peut-être un revamp d'une tune. Moi, je ne la connaissais pas. Je ne l'avais pas, cet album-là. C'est leur premier que j'ai réussi à dégoter. Leur premier album qui est paru sur Crazy Love Records, qui est paru en Germany. Ça vient de l'Allemagne. Un groupe montréalais qui a dû signer ou pour la distribution là-bas. Un groupe à voir en show. Dernier groupe qu'on avait vu avant la pandémie. En 2020. Ouais, je cherchais plus la date. C'était en mars. C'était le dernier show, 13 mars. Ouais. Je pense que c'était le 13 mars. C'était le dernier show qu'on a vu à Sainte-Thérèse dans un.
Ouais, c'est ça, exactement. Sans le savoir, c'était le dernier show qu'on a vu.
C'est
avant...
qu'on allait voir pour un bout. Mm-hmm. Et très bon show, très bon groupe à voir live. On parlait du drummer pendant qu'on écoutait la toune. Toute la gang sont excellents. René de la Moitié et au chant, guitare, leur bassiste Matt et le drummer qui est une pieuvre. C'est un qualificatif animalier, mais c'est une machine. C'est un métronome. Si j'ai un band ou un album enregistré, je paye une session à ce gars-là pour l'avoir en arrière des
ouais, de vraiment, il sonne.
Puis en show, il était impressionnant.
Il sonne comme une machine, littéralement.
Ouais.
C'est
il frappe
incroyable.
Fort.
Ouais,
si on était proche, il frappe fort.
Ça sonne vraiment bien et clair et précis. Donc, ouais, c'est vraiment,
si vous aimez le Psycho Billy, Rockabilly.
Ouais.
Le côté punk un peu, tout le côté horreur des Brains, c'est merveilleux.
Ouais, 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 ouais.
Fait que Made in Montreal, fait à Montréal, QC, sont en parlant de train, ils doivent avoir sauté dans un avion puis dans un train, ils sont en tournée européenne en 2024.
Wow!
Fait que là-bas, il y a des bandes qui ont plus de succès. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de succès ici, mais ils ont plus de succès dans des marchés comme l'Allemagne, la France, tout ça, pour des styles musicaux
très précis,
comme ça,
là,
très
ouais.
précis. Là.
Ouais, ouais, ouais.
Puis tu sais, les Allemands trippent sur le Psycho Billy puis tout, là, tu sais, les météores puis tout ça viennent de...
C'est vrai?
Ouais, ok. Fait que je suis sûr que ça fait partie de leur itinéraire. En parlant de voyage et de moyens de transport, je vais vous parler d'une bande dessinée. J'ai la suite des idées ce matin.
Ben ouais,
je suis réveillé. Donnez-moi une main d'applaudissement. All right, man.
Bravo, Marc-André. Hey, on est tellement fier de toi.
All right,
c'est bien ça. Continue.
Là, je suis plus capable de parler. Christophe Dabitch et...
Pardon? What?
Oui, et Pierrot Macola. Essayez de le lire. Essayez de dire que je ne l'ai pas.
OK, on répète ça, là.
Christophe Dabitch. Dabitch. Pierrot Macola.
Là, il faut y appeler Dabitch parce que c'est juste trop drôle. Hein? Ouais. C'est D-A-B-I-T-C-H. Donc, c'est vraiment comme ça.
Ça le C est silencieux.
Tu penses?
Ah oui? Dabitch.
Ah, pardon.
Ah, OK. Mais le C est après le T, par contre.
Faut pas le répéter.
Faut pas le répéter. OK, c'est bon.
Excusez-nous.
Les passeurs de Lagune. Ouais. C'est une bande dessinée?
Oui, une bande dessinée française en couleur. C'est presque du pastel, la pochette. C'est un jeune garçon qui est sur une chaloupe, qui a une arme à la main, et on a Venise en Italie en arrière de lui. Et lui, checkez bien ça, quatrième de couverture, la lagune est pleine de pièges. Les Vénitiens ont oublié, pas moi. Et c'est une quête d'un jeune garçon avec son père, une espèce d'amitié trouble. Il y a des passeurs, il y a des réfugiés qui sont en Italie. Il y a toute une espèce de cartel. On est près des mafias, mais c'est pas les mafias. Mmh. Mais c'est très intriguant. Le dessin sur la coche, le récit, c'est parfait. L'eau est grise. C'est des lavis d'aquarelle. Un petit trait de crayon ligne fine. Quand même des détails. C'est pas hyper réaliste, mais on s'accroche au jeune personnage rebelle qui a les cheveux. Il y a presque un mohawk qui est rasé sur le côté et il y a le mohawk. Et on suit ses déambulations que son père a demandé, il disparaît puis il sait pas pourquoi. Puis là, il pose des questions et lui et son père connaissent des espèces de. Pas ce qu'on connaît là, avec les gondoles là, dans Venise, mais à l'extérieur de Venise. Là, okay. Il y a d'autres canaux.
Les endroits cachés.
Cachés et où est-ce qu'il se passe des choses licites et illicites. Très intéressant. C'est un livre aussi un peu, excusez l'expression anglaise, Becoming of Age.
Ouais.
Du passage de l'âge adolescent, jeune enfant, à prendre des décisions d'adulte parce que ton père n'est pas là. Mm. Sa mère, on ne sait pas, est décédée. Il se retrouve tout seul. Aller à l'école, c'est pas son intérêt principal, mais le petit gars, il a une tête sur ses épaules et il se passe des affaires. Très beau livre paru sur le Centre national du livre. Il appelle ça le CNL. Ça vaut 25 euros.
Ah,
je sais pas en canadien combien ça vaut.
25 euros, c'est pas si pire.
Un bon 40 piastres canadiens.
Mmh. Mais c'est un très beau livre, illustré en couleur. Et ouais, comme tu mentionnais, donc l'illustration, c'est pas de la bande dessinée classique, là, c'est un peu de l'aquarelle.
Ouais.
Un peu moins défini, là, moins de contours.
Exact.
Plus difficile.
Les personnages, eux, ils ont le contour au trait noir fin, mais le paysage, c'est ça, il est plus aquarelle. Puis c'est fait à la main. On le voit à Star. Il y en a beaucoup qui prennent des logiciels puis qui disent.
Ouais.
Mais lui, j'ai lu des choses, puis les auteurs sont fiers à Star de dire « Je l'ai faite à la main, old school, ancré old school, langue de Chine, tout ça.
Ouais, » ouais,
fait
ouais.
que chapeau à ces auteurs-là, là, on répétera pas le... On va répéter le nom du livre, mais pas des auteurs.
Le passeur de lagune.
Exactement. Allez, c'est une belle monographie.
En terminant, Marc-André, il reste 2 minutes à l'émission.
OK, on est des gros fans d'humour.
Oui.
Et on voit des spectacles live, on écoute des podcasts du mot, on voit des captations de spectacles. Et là, je retourne sur un vieux de la vieille, un OG là, au Québec. Là. Si vous êtes nouvellement arrivé au Québec, tout ça, ben il y a des auteurs du mot, il y a des conteurs. Dans le Québec d'autrefois, il y avait des conteurs, des raconteurs d'histoires alentour du feu l'été, ben alentour du feu l'hiver. Ben il y en a un qui vient du lac Saint-Jean et qui est sa coche, c'est Michel Barrette.
Ia
Tremblay. Et là, c'est le meilleur de Barrette. C'est peut-être son dernier spectacle. C'est la rumeur. Il avait vendu 70 000 billets. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais je le crois. Et c'est 40 ans de métier derrière la cravate de cet humoriste-là.
Quand même, hein?
Qui est un raconteur, qui ne fait plus son personnage. Au début, il a commencé avec des personnages, on l'a dit tout à l'heure, Alain Hian. C'est un personnage loufoque du folklore, on va dire.
Qui n'avait pas toutes ses dents.
Quoi, qui n'avait pas toutes ses dents, tout ça. Mais Michel Barrette, il a des anecdotes à n'en plus finir. Et il a fait un dernier spectacle, ou en tout cas, c'est son dernier spectacle. Et là, pour cette captation-là, je crois que c'est à l'Étoile de Brossard, ou peu importe, c'est dans une salle, et en tournée, il doit filmer tous ses spectacles et dire « OK, cette soirée-là, c'était ma meilleure. » Et il fait du crowd working, ce qu'on appellera en français l'interaction avec son public.
Ouais.
Et là, il fait monter sur le stage, dans ce spectacle-là, dans cette captation-là, un jeune homme, et il pose des questions.
OK.
Et c'est de toute beauté.
OK.
Il y a un malaise.
Ouais.
Il y a des quiproquos, c'est capoté et c'est filmé. Si c'est stagé, le gars, il mérite un Oscar ou un Jutra ou un... Je sais pas comment ça s'appelle.
Ouais, ouais, ouais.
Le jeune homme, il est de toute beauté et Michel Barrette s'en amuse, se bidonne sur son dos.
Okay. Fait,
allez voir ça. Ça s'appelle L'humour de ma vie. Ultime tournée, Michel Barrette.
You're listening to CKUT. The following is a previously broadcast program. Stay tuned.
Sleepy King starts now.